Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans cette biographie historique, Jean Sévillia retrace la vie de Zita de Bourbon-Parme, 1892-1989, dernière impératrice d'Autriche et reine de Hongrie par son mariage avec Charles Ier de Habsbourg. Parue initialement chez Perrin en 1997, l'étude couvre près d'un siècle. Depuis l'univers des dynasties européennes de la fin du 19e siècle jusqu'aux recompositions politiques de l'après-guerre. Son centre de gravité est la période décisive ouverte en 1916, l'accession de Charles au trône au cœur de la Première Guerre mondiale, les tentatives de paix de la monarchie, puis la disparition de l'Empire austro-hongrois en 1918. Sévillia suit également l'exil, le veuvage précoce de Zita à Madère, l'éducation de ses 8 enfants, l'engagement de la famille contre le nazisme et le retour de l'ancienne souveraine en Autriche. Le livre entend donc restituer à la fois un destin personnel et la chute d'un ordre européen. Il privilégie le portrait d'une femme de devoir, de conviction catholique et de constance face aux ruptures politiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une souveraine placée au cœur de l'effondrement austro-hongrois. Le premier intérêt du livre est de faire de Zita un point d'entrée dans la crise terminale de l'Autriche-Hongrie, lorsqu'elle devient impératrice en 1916. À la mort de François-Joseph, elle n'accède pas à une monarchie stable. Charles Ier hérite d'un État engagé depuis 2 ans dans une guerre mondiale, marquée par les pénuries, les pertes humaines et les tensions nationales internes. La biographie insiste sur la brièveté de ce règne, achevé de fait par la dislocation de 1918. Ce cadre empêche de réduire Zita à une figure décorative de cour, sa place d'épouse du souverain l'inscrit dans les préoccupations politiques et diplomatiques du moment, notamment dans la recherche d'une sortie de guerre. Sévillia aborde ainsi les tentatives de paix associées à Charles. Sans les isoler de leur contexte, l'Empire dépend fortement de l'Allemagne et ses marges de manœuvre sont étroites. L'échec ne relève donc pas simplement de la volonté individuelle, à travers le couple impérial. L'ouvrage rend perceptible la collision entre une légitimité dynastique ancienne et les forces qui travaillent l'Europe de guerre nationalisme, révolution, épuisement des sociétés et redécoupage des États. Zita apparaît moins comme le symbole abstrait d'un monde disparu que comme le témoin direct de sa fin. Deuxièmement, l'exil comme expérience matérielle, familiale et politique. Après 1918, le récit change d'échelle, la perte du trône devient une expérience concrète de précarité et de déplacement. Sévillia suit la famille impériale dans un exil qui ne constitue pas une simple retraite aristocratique. La chute de la monarchie entraîne l'éloignement, l'incertitude financière et l'effacement des repères institutionnels qui avaient structuré la vie des Habsbourg. La relégation du couple à Madère en 1921 donne à cette rupture une dimension particulièrement nette. Charlie meurt en 1922, laissant Zita veuve à 30 ans avec 8 enfants. Cette séquence est essentielle à l'interprétation du titre « Le courage » que met en avant l'auteur ne se limite pas aux grands gestes politiques, mais désigne une capacité à maintenir une famille, une discipline et des obligations dans des circonstances radicalement transformées. L'exil demeure aussi politique, car Zita ne renonce pas à la mémoire ni aux principes de la dynastie. Le livre invite ainsi à distinguer fidélité et pouvoir effectif. L'ancienne impératrice ne dispose plus d'un État, mais continue d'assumer une identité publique liée à la couronne. Cette tension explique la durée du parcours. Sa vie ne se résume ni à la nostalgie monarchique, ni à l'adaptation privée. Elle articule les deux, dans une Europe où les anciens souverains doivent apprendre à vivre sans souveraineté. Troisièmement, le veuvage et la maternité au fondement de la figure de Zita, la biographie accorde une fonction structurante au veuvage de Zita et à son rôle de mère. La mort de Charles Ier en 1922 ne ferme pas seulement le chapitre du règne, elle redéfinit durablement ses responsabilités. Avec 8 enfants à élever, l'ancienne impératrice doit assurer la continuité familiale dans des conditions éloignées de celles de la cour viennoise. Sévillia fait de cette situation l'un des éléments qui explique l'image d'une souveraine ferme et endurante. Il ne s'agit toutefois pas d'opposer mécaniquement la mère à la femme politique. Dans une dynastie déposée, l'éducation des enfants possède aussi une portée de transmission. Elle concerne un héritage historique, reliefamiul familial, que Zita souhaite préserver. Le livre montre ainsi comment la sphère domestique peut devenir un lieu de continuité lorsque les institutions ont disparu. Cette perspective donne une densité particulière à la représentation de Zita comme grand-mère de l'Europe. L'expression renvoie à ses liens familiaux avec plusieurs maisons royales, mais aussi à une longévité qui lui permet de traverser plusieurs générations. L'approche de Sévillia est clairement attentive aux valeurs de devoir conjugal, de foi et de famille qui organise l'existence de son sujet. Le lecteur doit donc y voir un portrait interprétatif, assumant l'admiration, mais fondé sur des épreuves biographiques précises plutôt que sur une idéalisation détachée des faits. Quatrièmement, face au nazisme et à la guerre, une dynastie sans territoire. L'ouvrage ne s'arrête pas à la disparition de l'Empire en 1918, il replace Zita et sa famille dans les conflits idéologiques et géopolitiques qui suivent. L'hostilité des Habsbourg au nazisme constitue un jalon important de cette période, dans le contexte de l'Anschluss et de l'expansion allemande. La question autrichienne ne renvoie plus à la restauration immédiate de la monarchie, mais d'abord à l'indépendance même de l'Autriche face au Reich. Réfugiée aux États-Unis à partir de 1940, la famille impériale cherche à défendre la cause d'une Autriche indépendante auprès des Alliés et à empêcher l'abandon de la Hongrie à la domination soviétique. Cette partie du parcours nuance l'image d'une famille tournée exclusivement vers son passé privé de tout pouvoir institutionnel. Elle tente d'intervenir dans les débats du temps à partir de son réseau, de son expérience et de sa légitimité symbolique. Sevilla présente Zita comme fidèle à un principe monarchique, mais son sujet est aussi confronté à des réalités qu'aucune fidélité dynastique ne suffit à maîtriser occupation. Totalitarisme, guerre mondiale et partage de l'Europe. La valeur analytique de cette séquence tient à ce déplacement. La biographie ne traite pas seulement de la survie d'une ancienne cour. Elle observe ce qu'il reste d'une voie politique lorsque l'État qu'elle incarnait n'existe plus et que le continent est dominé par des puissances rivales. En dernier lieu, le retour de 1982 et la mémoire publique des Habsbourg, le retour de Zita en Autriche en 1982, après 63 ans d'exil, constitue l'aboutissement symbolique du livre. L'événement ne signifie évidemment pas un retour de la monarchie, mais il révèle une transformation du rapport des Autrichiens à leur histoire impériale. L'ancienne souveraine revient dans un pays républicain, profondément différent de celui qu'elle avait quitté en 1919. Et son accueil souligne qu'une mémoire dynastique peut survivre à la disparition des institutions. Sevilla utilise ce moment pour mesurer l'ampleur temporelle du destin de Zita. Elle a connu l'Empire multinational, son effondrement, les guerres mondiales, la guerre froide et l'Europe de l'après-1945, son décès en 1989, année hautement symbolique de la fin de l'ordre européen issu de Yalta, renforce encore cette impression de continuité biographique à travers les ruptures du siècle. La réception de Zita ne doit pas être comprise comme une adhésion unanime à une lecture monarchiste de l'histoire. Elle montre plutôt que les figures historiques peuvent être réévaluées à distance des affrontements qui les avaient rendues controversées. Le livre se distingue ici par l'attention accordée à la dignité publique de son sujet, le retour, puis les funérailles viennoises. Met en scène une reconnaissance mémorielle plus qu'une revanche politique. Cette dernière étape donne à la biographie une portée européenne, en liant l'itinéraire d'une femme à la persistance des héritages habsbourgeois dans la conscience collective. En conclusion, Zita, Impératrice Courage, s'adresse d'abord aux lecteurs d'histoire européenne, aux amateurs de biographies de souverains et à ceux qui cherchent à comprendre la fin de l'Empire austro-hongrois autrement que par les seuls traités, cartes ou rapports diplomatiques. Il intéressera aussi les lecteurs attentifs aux formes concrètes de l'exil politique, à la place des familles dynastiques après 1918 et aux mémoires concurrentes de l'Europe centrale. Son bénéfice intellectuel principal est de relier une trajectoire individuelle à plusieurs grandes ruptures. La Première Guerre mondiale, la disparition des empires, la montée des totalitarismes, la Seconde Guerre mondiale et la recomposition du continent après 1945. Zita n'est pas présentée comme une actrice disposant d'un pouvoir illimité, mais comme une femme dont les choix et la tenue prennent sens dans les contraintes extrêmes de son époque. Par rapport à des synthèses sur les Habsbourg ou à des biographies centrées sur Charles Ier, le livre se singularise par son attention durable à Zita elle-même, y compris après la mort de son mari. Sevilla privilégie un récit accessible et empathique, sans renoncer au cadre historique nécessaire pour comprendre les enjeux de chaque exil et de chaque retour. Cette sympathie pour son sujet constitue aussi une clé de lecture. L'ouvrage assume de valoriser sa foi, sa fidélité et son sens du devoir. Pour qui accepte cette perspective, il offre un portrait suivi, incarné et documenté d'une figure souvent reléguée à l'arrière-plan de la chute des Habsbourg. Il permet enfin de saisir comment une ancienne impératrice a traversé le XXe siècle sans cesser de représenter, aux yeux de certains, une histoire européenne disparue mais durablement présente. Si vous souhaitez soutenir Jean Sevilla, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.